Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. C'est le nouveau rendez-vous d'Europe Soir. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Ce soir, la semaine de 4 jours en débat, ça fait rêver et bien certains ont décidé d'ouvrir le débat. Vous allez voir, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, des entreprises françaises s'y mettent aussi. Alors travailler 4 jours serait-il la solution au chômage de masse avec des salariés plus heureux, plus productifs aussi? On en débat avec nos invités dans 20 minutes. 19h15, la carte blanche du Club des Idées. Ce soir, le coup de griffe de l'écrivain Philippe Besson. Où est l'argent pour la culture, nous dira-t-il. Et puis 19h50, on replonge dans les archives du Club des Idées. Ce soir, le jour où la France se convertit aux 35 heures. Souvenir, souvenir. Mais d'abord, c'est le journal avec vous, Isabelle Millet. Il est 19h sur Europe 1.
Les résultats donc, sont tombés avec 50 cas positifs dans l'établissement, dont 43 résidents. Bien sûr, les équipes sont très vigilantes là-dessus.
Inquiétude dans un EHPAD de l'Aveyron. Nos aînés en danger, le spectre de la première vague ressurgit.
Le département du Bas-Rhin doit lui se dépatouiller, sont les mots, avec les consignes du Conseil d'État qui lui a demandé de revoir à certains endroits son arrêté sur le port du masque.
L'affaire des chevaux mutilés, un suspect interpellé dans le Haut-Rhin, alors même que les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture sont ce soir, en ce moment, chez une éleveuse qui a perdu l'un de ses chevaux.
Le Brexit et Boris Johnson qui brandit de nouveau la menace du no deal. Les négociations finales qui s'ouvrent demain vont s'ouvrir dans une drôle d'ambiance, nous dira Didier François.
Et puis Roland Garros, cette année, Covid oblige, jauge réduite de 20 000 à 11 500 spectateurs maximum par jour.
La bonne nouvelle du soir, c'est le beau temps qui se maintient, Anissa.
Oui, Julien, effectivement, le beau temps va s'installer même pour toute la semaine jusqu'au week-end prochain. Demain, il va faire beau et plus chaud avec quelques nuages et des petites averses localisées. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors que le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, que les autorités sanitaires commencent à évoquer une situation tendue dans les hôpitaux, inquiétude de nouveau pour les EHPAD, Isabelle.
Dont les résidents ont déjà payé un lourd tribut, on le sait, lors de la première vague. Un cluster a notamment été détecté dans une maison de retraite de l'Aveyron, à Sévrac-le-Château, Benjamin Péter.
Oui, c'est le résultat d'un dépistage massif de l'ensemble des 75 résidents et 63 personnels de l'EHPAD Gloriand, d'un dépistage ordonné par l'ARS après que 6 personnes, un salarié et 5 résidents qui avaient déclaré des symptômes ont été testés positifs en fin de semaine dernière. Samedi, 127 prélèvements ont donc été effectués, comme l'explique Benjamin Arnal de l'ARS de l'Aveyron.
Les résultats donc, sont tombés dimanche avec 50 cas positifs dans l'établissement, dont 11 personnels, 43 résidents. Nous savons qu'il y a des personnes âgées qui sont au service infectieux à Rodez, donc elles ne sont pas en réanimation, je précise, elles sont prises en charge du service infectieux et leur état de santé est stabilisé. Et nous avons d'autres résidents qui sont symptomatiques, qui sont surveillés très près, donc bien sûr les équipes sont très vigilantes là-dessus.
Alors avant même d'avoir les résultats, l'établissement a été reconfiné, ça veut dire plus de visites, des repas pris en chambre et plusieurs médecins de l'ARS se sont déplacés sur place cet après-midi, notamment pour réorganiser les EHPAD en unité afin d'éviter que les patients malades ne croisent les patients sains. Et puis un appel a été lancé aux soignants, aux infirmiers libéraux qui pourraient venir aider, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés pour renforcer le personnel de l'établissement, dont une grande partie est désormais en quatorzaine.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
Direction maintenant le Grand Est, qui est repassé en zone de circulation active du virus et où les autorités doivent gérer notamment le casse-tête des masques.
Après la décision du Conseil d'État qui, comme dans le Rhône, demande aux préfets d'apporter d'ici demain quelques modifications à leurs arrêtés. On vous retrouve en direct, Arthur Elmbaché. Arthur, le souci des autorités, eh bien, c'est d'être le plus clair et le plus lisible possible surtout.
Alors vous me direz, Isabelle, à la fin, si j'ai réussi à être clair, pas sûr. Voilà où on en est ce soir. Le masque partout et tout le temps, ce sera dans les grandes villes quand elles sont vraiment grandes. Ici, dans le Bas-Rhin, Strasbourg seulement. Pour les autres, je parle là des 12 autres villes de plus de 10 000 habitants du département. Deux possibilités. Un, les cas de Schiltigheim et Bischheim, pour ceux qui ne connaissent pas, deux communes collées à Strasbourg, au nord, dans la métropole. Situation coronavirus préoccupante, dit la préfète. Donc, masque obligatoire, presque comme à Strasbourg, nous a dit la juriste de la préfecture, en clair, sauf dans les parcs et jardins. Deuxième cas, les autres communes, moins denses, pas préoccupantes. Là, un tronc commun, un mode d'emploi, le même pour tous, masque obligatoire devant les écoles, les crèches, les lycées, les théâtres, les aires de jeu, les stades, etc. Et puis aussi un petit peu de cas par cas en fonction des communes, du sur-mesure avec l'aide des maires, masque obligatoire par exemple près du port de Saverne où il y a souvent du monde. Un mot sur Strasbourg et deux femmes qui ont apparemment du mal à s'entendre ces dernières semaines. La nouvelle maire écolo, Jeanne Barseguian, et la préfète. La maire voulait des parcs et jardins sans masque obligatoire. Communiqué de presse cet après-midi pour le redemander. Réponse de la préfète, exaspérée, comme je lui ai déjà dit plusieurs fois, Madame le maire le sait, ma réponse est évidemment non. Les élus strasbourgeois rappellent qu'il n'y a pas foule dans les 1500 hectares de parcs, jardins et forêts de la capitale européenne et demandent des espaces sans masque pour, je cite, la santé psychique et mentale des habitants.
Effectivement, c'est compliqué, mais je trouve que vous avez été plutôt clair. Merci Arthur Henbaché, correspondant d'Europe 1
dans
l'Est.
Je valide Arthur. Le coup de com' du ministre de l'Intérieur qui promet que les chiffres de la délinquance seront désormais communiqués par lui chaque mois, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Je pense profondément que la France est malade de son insécurité, dit-il. Si elle est malade, alors il faut prendre sa température.
Gérald Darmanin qui est ce soir dans l'Oise en compagnie du ministre de l'Agriculture pour rendre visite à une éleveuse dont un cheval a été tué au mois de juillet.
Comme d'autres, un peu partout en France, malheureusement, certains tués, d'autres sévèrement mutilés. Alors que l'on a appris cet après-midi qu'un homme avait été interpellé dans le Haut-Rhin et placé en garde à vue, un suspect dont le portrait robot avait circulé. Pour l'instant, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.
Lionel Gougelot, les deux ministres sont venus afficher leur plus grande préoccupation face à ces actes de cruauté.
Oui, d'ailleurs, dans la région, on a recensé plusieurs attaques contre des chevaux dans différentes propriétés, que ce soit dans le département du Val-d'Oise ou ici dans le département de l'Oise. Ici à Plailly, Gérald Darmanin et Julien de Normandie ont rencontré la propriétaire de chevaux, sophrologue de profession qui pratique également l'équithérapie et qui a donc retrouvé en juillet dernier l'un de ses 6 chevaux mortellement mutilés. Richard, copropriétaire de ces chevaux, se dit satisfait d'observer que les pouvoirs publics se préoccupent effectivement de ces actes à répétition, mais il espère surtout une répression accrue contre ces actes de cruauté.
Aujourd'hui, si vous faites une cruauté à un animal, vous avez 2 ans de prison. Aujourd'hui, jusqu'à 2 ans, les gens ne vont pas en prison. C'est inadmissible. Alors pour ceux qui font subir à ces animaux, il y aura peut-être du changement dans la loi, j'ose l'espérer. Et je pense qu'il y aura peut-être les moyens qui seront mis pour donner aux forces de l'ordre de trouver les coupables.
Depuis une demi-heure maintenant, Gérald Darmanin et Julien de Normandie tiennent une réunion avec l'ensemble de la filière équestre, éleveurs, propriétaires de centres, représentants de la Fédération d'équitation, des professionnels qui attendent des actions concrètes et qui s'inquiètent également du réflexe d'autodéfense qui pourrait naître chez certains propriétaires excédés, amenés à assurer eux-mêmes la sécurité de leurs élevages avec les risques de dérapage que cela comporte.
Merci Lionel Gougelot dans l'Oise pour Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre dans quelques secondes dans votre journal de 19h, le Brexit. On croyait que c'était réglé ou presque. Eh bien non, Boris Johnson refait monter la pression.
Et puis heureusement qu'il y aura Europe 1 pour suivre Roland Garros cette année parce que dans les gradins, les places seront rares.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h08, la suite du journal avec Isabelle Mier. Ça chauffe sur le Brexit. Les Européens mettent en garde les Britanniques contre toute tentation de revenir sur les engagements pris lors de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Tout ce qui a été signé doit être respecté.
Et oui, alors que s'ouvre demain le dernier round de négociations, on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Boris Johnson remet en cause carrément le compromis signé au début de l'année et il menace même de claquer la porte.
Oui, alors effectivement, on voit que depuis 2 ou 3 jours, les dirigeants britanniques bombent le torse, haussent le ton, un peu comme ces boxeurs ou ces catcheurs qui prennent des poses martiales à la veille d'un match en pensant que ça va impressionner leurs adversaires. Eh bien, ça fait également partie du folklore diplomatique. Et pour que le défi paraisse crédible, eh bien, c'est le Premier ministre Boris Johnson qui agite en personne la menace du no deal. Donc, un Brexit sec si le dernier round de tractation ne se concluait pas en sa faveur. Avant le 15 octobre, précise-t-il. Là aussi, c'est le coup classique du pseudo-ultimatum lancé à la veille des discussions. La Grande-Bretagne avait déjà tenté la même manœuvre au début de l'année, avant de finalement signer un accord pour qu'aucune frontière ne soit rétablie entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Donc vous voyez, on pourrait paraphraser les Anglais. Keep calm and negotiate. Restons calmes et poursuivons les négociations. C'est exactement la réponse qui a été faite par l'Europe à Boris Johnson. D'autant qu'une rupture sans accord entre Londres et Bruxelles serait finalement plus dommageable pour les Britanniques que pour les Européens, parce qu'on appliquerait alors les règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui coûterait extrêmement cher au Royaume-Uni et à sa monnaie.
Mais bombez pas trop le torse quand même, parce que vous m'impressionnez, Didier, en studio. Quels sont les véritables points de blocage de cet accord qui ne vient pas ?
Alors, pour les Européens, il y a la question des droits de pêche, avec le maintien des quotas actuels et l'accès aux eaux britanniques. Mais ça, en fait, ça devrait se régler. L'enjeu principal, c'est d'obtenir la garantie que Londres respecte les normes et les tarifs communs si Bruxelles lui octroie un accès sans droit de douane à son marché continental. C'est essentiel pour éviter une concurrence déloyale, parce que la Grande-Bretagne pourrait être utilisée par des pays exportateurs peu scrupuleux comme cheval de Troie. Or, à ce stade, Boris Johnson refuse de s'engager au nom du respect de la souveraineté britannique, ce qui n'est pas acceptable.
Affaire à suivre. Donc, l'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci.
Merci.
Après 7 mois d'errance en mer, près de 300 réfugiés Rohingyas sont arrivés aujourd'hui sur les côtes indonésiennes. Ces minorités persécutées en Birmanie se voient souvent offrir par des passeurs la promesse d'une nouvelle vie en Indonésie ou en Malaisie. Sauf qu'avec la pandémie, les pays renforcent leur contrôle et empêchent les embarcations d'accoster, d'où cette errance de 7 mois.
Les sports avec le tennis, et alors que l'US Open n'est pas encore terminé, on se projette déjà sur Roland-Garros. Ça approche.
Et on en sait plus depuis cet après-midi, grâce à vous Corinne Boulou, sur les mesures sanitaires qui seront mises en place avec une jauge de spectateurs réduite.
Oui, il y aura bien du public dans 3 semaines, mais les organisateurs du tournoi parisien ont dû revoir leur plan à la baisse. Ils espéraient 20 000 personnes en début de tournoi. Ce sera une jauge réduite à 11 500 spectateurs par jour et surtout, le public ne pourra pas déambuler comme il le souhaite. Le site de 12 hectares sera compartimenté en 3 zones autour des 3 grands cours. 5 000 spectateurs dans la zone du Châtrier, 5 000 aussi dans celle du Langlaine et 1 500 dans celle du cours Simone Mathieu. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure le directeur général de la FFT, organisatrice du tournoi, Jean-François Villotte.
Le public qui sera titulaire d'un billet du Simone Mathieu ou du Philippe Châtrier ou du Suzanne Langlaine ne pourra pas, malheureusement, mais c'est la situation sanitaire qui l'impose, passer d'un site à l'autre. Donc, 3 entités distinctes pour gérer le public et les flux de circulation.
Et il n'y aura pas de billetterie pour les courses annexes. Les épreuves de qualification se disputeront, elles, à huis clos à partir du 21 septembre. Et 2 hôtels seront quasi réservés pour les joueuses et les joueurs pour limiter les contacts extérieurs, sans compter les tests PCR qui seront réguliers tout au long de la quinzaine.
Évidemment. Merci Corinne Boulou. On a hâte quand même de vous retrouver en direct pour commenter ces matchs sur Europe 1 dès le 27 septembre pour le premier tour.
Oui, ça sera beaucoup mieux à la radio d'ailleurs qu'aller sur place. Merci. Journée de repos sur le Tour de France et de tests également. Tous les coureurs doivent se soumettre à un dépistage.
Et puis on a appris aujourd'hui la disparition à 88 ans de la soprano martiniquaise Christiane Hédapierre. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle était une très grande voix française, première cantatrice noire de l'Hexagone à faire une carrière internationale d'envergure. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dit d'elle qu'elle était une reine française de l'art lyrique. La voix de Christiane Hédapierre, l'une de nos plus grandes cantatrices qui s'est donc éteinte aujourd'hui à 88 ans.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Oui, et avec Anissa aussi, on est entre de bonnes mains. D'ailleurs,
c'est gentil.
Demain, ça s'annonce estival. Et ça va durer, et ça va durer. C'est la bonne nouvelle du début de semaine.
Avec tout de même quelques petits nuages qui concernent principalement les régions situées au nord de la Seine, la Bretagne, la Normandie, le nord de la région parisienne et les Hauts-de-France. Là, la journée va commencer avec des grisailles, mais je vous rassure, elles vont très vite se dissiper. Dans le sud, c'est le Roussillon qui est concerné. Là aussi, le ciel est couvert, avec sur les Pyrénées-Orientales et les Alpes de Haute-Provence des petites averses très localisées demain après-midi. Vous l'avez compris, demain il va faire beau et même plus chaud. Alors demain matin nous aurons 10 à 21 degrés, puis dans l'après-midi 21 à 31 degrés, 21 pour Cherbourg, 25 à Paris, 28 à Lyon, 29 à Bastia et Toulouse, 30 à Marseille et 31 à Nîmes pour la maximale.
Eh bien ça promet, merci Anissa. 19h14, on est toujours en direct dans Europe Soir. On ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord dans le Club des idées la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec vous, Philippe Besson, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Écrivain, scénariste, auteur à succès, tout le monde vous connaît. Et c'est un coup de griffe que vous nous proposez ce soir. Le gouvernement annonce 2 milliards d'euros pour la culture. Est-ce que ça vous réjouit ?
Ah mais je saute au plafond, vous voulez dire. Surtout après le printemps cataclysmique et l'été meurtrier vécu par les artistes et les créateurs. D'ailleurs, elle nous a été martelée, hein, cette somme, vous avez remarqué, comme si le gouvernement voulait qu'on ait bien conscience de ses largesses et qu'on le remercie, qu'on fasse la révérence. Et c'est là, Julien, pour tout vous dire, que j'ai commencé à tiquer
et à me
souvenir que le plan global se chiffre à 100 milliards. 100 milliards probablement trouvés sous le sabot d'un cheval, d'ailleurs, puisque pendant des années, on nous a expliqué que les caisses étaient vides. Donc, au fond, la culture ne représente que 2% du total. Et elle percevra 15 fois moins que l'écologie ou 10 fois moins que les entreprises à qui on a refilé 20 milliards de baisses d'impôts sans leur demander la moindre contrepartie. Alors que la culture, c'est 7 fois l'industrie automobile, ne cesse de nous rappeler Roselyne Bachelot. Du coup, on saute un peu moins au plafond.
Et c'est un homme de culture ce soir qui nous le dit. Alors au moins, quand le Premier ministre invite les Français à retourner au cinéma, au théâtre, dans les salles de spectacle, ça vous réjouit ça ?
Il s'agit surtout d'un sacré retournement de situation, puisque depuis les mois de mai et juin, nous pouvions nous précipiter dans les magasins, nous agglutiner dans les trains, nous coller les uns aux autres dans les avions. Mais en revanche, le théâtre et l'opéra nous étaient absolument interdits. Nous étions privés de festivals, privés de concerts et on ne sortait pratiquement pas de films au cinéma. En somme, nous étions invités à consommer, mais surtout pas à nous cultiver. Voilà au moins une aberration de réparer.
En fait, vous êtes colère ce soir, Philippe.
Un peu, vous avez remarqué, oui.
Bon, et vous avez raison d'être en colère ?
Écoutez, on pourrait dire que je suis ingrat, puisque notre pays peut s'enorgueillir d'avoir une politique culturelle ambitieuse. Regardez, depuis 2007, on a déjà eu 8 ministres de la Culture. 8, c'est dire l'importance qu'on accorde à cette fonction. Et notre pays a également une tradition admirable. C'est celle de lancer des grands travaux qui ont le mérite d'associer création de beauté et création d'emplois. Pourtant, j'en ai pas vu la queue d'un seul dans le fameux plan de relance.
Bon, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La restauration de Notre-Dame, par exemple. Ça n'est pas rien, ça, quand même, Philippe Besson.
Ah, la restauration. Alors, vous savez que sur le plan historique, ça correspond au retour de la monarchie. Sur le plan sémantique, ça peut signifier reproduction à l'identique. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui nous attend avec la flèche de Viollet-le-Duc. Nous aurons droit à un copier-coller. Alors, on avait pourtant évoqué la possibilité d'un geste architectural contemporain. Du coup, on s'était pris à rêver d'une toiture vitrée, d'un jardin en plein ciel, d'une nouvelle flèche en verre. On pensait bêtement qu'un concours international serait lancé, que les meilleurs architectes du monde rivaliseraient d'imagination, que des projets incroyablement originaux nous seraient proposés, et qu'on n'aurait que l'embarras du choix. Mais non, pas de concours, pas d'imagination, fini de rêver, les dés ont été jetés, nous aurons droit à une imitation, une copie, une singerie.
Donc le coup de griffe de Philippe Besson ce soir, c'est merci, mais vous la jouez un peu petit bras pour la culture.
Exactement. Mais en vérité, Julien, c'est pas seulement une question de moyens. Je crois que c'est aussi, et peut-être même d'abord, une question d'état d'esprit. Par le passé, nous avons su faire preuve d'audace, d'inventivité, de capacité de transgression. Et les décideurs ont su résister aux protestations en tout genre. C'est plus le cas. Quand on a imaginé la tour Eiffel, certains ont expliqué qu'elle allait défigurer Paris. Ils évoquaient une tour vertigineusement ridicule, une noire cheminée d'usine, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. On l'a construite. Quand Georges Pompidou a décidé de créer au cœur de Paris un centre national d'art moderne et opté pour un bâtiment multicolore, doté de canalisations, d'escaliers électriques, de passerelles métalliques, on a moqué un hangar, une raffinerie de pétrole, une verrue d'avant-garde. Il s'est imposé. Lorsque Pey a dévoilé son projet de pyramide du Louvre, les conservateurs de tout poil se sont aussitôt déchaînés. Degré zéro de l'architecture, gadget. L'académicien Jean Dutour a même lancé un appel à l'insurrection, comme si la patrie était en danger. On a comparé l'édifice à une maison des morts sortie de Disneyland. On nous l'envie désormais.
Et qui reviendrait dessus aujourd'hui ?
Personne ! Parce que hier, au fond, nous avions des bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons des conservateurs. Hier, nous avions des visionnaires. Aujourd'hui, on a des gestionnaires à la petite semaine. Vous savez quoi, Julien ? Comme dirait l'autre, j'ai mal à ma France.
Merci Philippe pour ce billet d'humeur et ce coup de griffe. Philippe Besson, qui est avoué, j'en ai perdu ma voix. Philippe Besson qui est avec nous dans le Club des idées, tous les lundis désormais à partir
absolument,
de 19h15.
Oui,
merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on poursuit dans quelques secondes avec le débat du Club des Idées. Faut-il se convertir à la semaine de 4 jours? Le débat, vous allez voir, est relancé en Europe. Alors pourquoi pas en France? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on est toujours en direct dans Europe Soir avec le grand débat du Club des Idées maintenant. Et ce soir, on s'intéresse au temps de travail. Faudra-t-il demain travailler plus pour relancer la France, comme nous dit le MEDEF? Et cela alors que le chômage pourrait exploser? Ou alors, faut-il au contraire travailler moins pour mieux partager le travail? Et la semaine de 4 jours est peut-être la solution, comme le proposent certains. Le débat fait rage, par exemple, chez nos voisins allemands. Des ministres y seraient même favorables. En France, vous allez voir que des entreprises tentent l'expérience. Alors, pour ou contre la semaine de 4 jours? On en parle ce soir avec nos invités. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir. On en parle également avec Éric Vérague, entrepreneur, essayiste et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres.
Bonsoir. Bonsoir.
Avec Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Et on en parle également par téléphone avec Laurent de la Clergerie. Vous êtes président de LDLC, c'est une société de vente en ligne d'équipements informatiques qui a décidé justement d'instaurer cette semaine de 4 jours. Ce sera, je crois, l'an prochain, en 2021, c'est cela ?
Bonsoir, tout à fait. C'est un projet qu'on a mis en route et qui devrait être initié dans l'entreprise en janvier 2021.
Combien de salariés seront concernés par cette mesure, monsieur ?
800 salariés seront concernés par la mesure.
800 salariés qui vont donc demain passer de 5 semaines, de 5 jours, le lapsus, pardonnez-moi, à 4 jours par semaine.
C'est ça, passer de 5 jours à 4 jours par semaine, payés comme s'ils travaillaient 5 jours, soit 35 heures.
Alors, il paraît que l'idée vous est venue d'un reportage que vous avez vu sur Microsoft il y a quelques années et qui avait expérimenté cette semaine de 4 jours pendant un mois. C'est cela ? Racontez-nous.
En effet, Microsoft l'année dernière a tenté l'expérience en août au Japon et c'est ce qui a mis la graine dans ma tête. C'est pas le qui m'a fait réfléchir à l'hypothèse des 4 jours.
Bien. Alors, on est allé avec François Coulon se promener un peu dans les allées de votre entreprise pour demander aux salariés eh bien, comment ils accueillaient la mesure. Voici un court extrait.
C'est un geste magnifique. Ça montre que ce n'est pas quelqu'un qui est porté vers l'argent pour lui-même et qui prend soin de ses collaborateurs.
On se donne à fond toute la semaine parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir profiter, être récompensé, entre guillemets. Pour nous, c'est du repos et donc avoir le sourire quand on vient travailler. Et là, je pense qu'honnêtement, j'aurai encore plus la pêche. Donc, ça peut que être positif.
Voilà, Laurent de la Clergerie, président de LDLC. On a entendu vos salariés, hein, puisque vous avez décidé, je le rappelle, d'instaurer la semaine de 4 jours à partir de l'an prochain, en 2021. Et vous dites, expliquez-nous ça, c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le salarié ?
Alors, le pari pour moi, c'est que ça amène plus de bien-être aux salariés et plus de repos. Parce que ce jour de repos, c'est un jour dans lequel ils vont soit pouvoir prendre du temps pour eux-mêmes, soit pouvoir faire ce qu'ils n'ont jamais le temps de faire et qui est reporté au week-end, ce qui fait que derrière, ils n'ont pas un vrai week-end.
Alors ça paraît logique, mais pour l'entrepreneur que vous êtes ?
Alors, l'entrepreneur que je suis, derrière, si on regarde les comptes, je vais perdre de l'argent parce que je vais devoir embaucher et que ça va me coûter plus cher pour le même travail. Dans la réalité, je pense qu'en fait, des salariés qui sont heureux vont transmettre ça à travers... On dit toujours, par exemple, qu'un sourire, ça s'entend au téléphone. Un client qui entend un sourire au téléphone, ce sera un client de gagné. Le pari que je fais, c'est que ces salariés heureux vont me ramener plus de clients et qu'à la fin, le cercle est vertueux et que je retrouverai la mise que j'ai mise au départ.
Bien, vous restez avec nous, monsieur. On va continuer d'en débattre avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail notamment. Question pour vous, Bernard Vivier. Quand on entend ce monsieur, ça paraît super. Tout le monde pourrait passer demain à la semaine de 4 jours, des salariés heureux, des patrons heureux et des salariés plus productifs.
Oui, alors ce à quoi il faut faire attention, c'est à deux choses. D'abord, la rémunération. Et là, ce chef d'entreprise vient de le dire. Je maintiens l'intégralité du salaire alors que le temps de travail va diminuer.
Oui. Bien.
Deuxième question que l'on se pose, que font les concurrents pendant ce temps-là ? Dans la durée, que va faire ce chef d'entreprise dans un marché national ou européen ou international ? Les marchés sont mondiaux, soumis à une pression très forte. C'est la question du coût du travail. Donc c'est la question de la productivité de son entreprise.
Vous avez précisément, Bernard Vivier, posé l'enjeu du débat. On en parle dans quelques secondes avec nos invités. Faut-il tous passer, pourquoi pas demain en France, à la semaine de 4 jours ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours en direct à 19h30 dans le grand débat du Club des Idées. On parle ce soir du temps de travail. Faut-il passer à la semaine de 4 jours ? On a entendu juste avant la pause cet entrepreneur français qui a plusieurs centaines de salariés qui a décidé, par souci d'efficacité, de productivité, possibilité de passer à partir de 2021 à la semaine de 4 jours. Et c'est vrai que le débat fait rage en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre notamment. On en parle donc avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, avec Sophie Binet, secrétaire générale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, et avec Éric Vérague, entrepreneur et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres. Alors Éric Vérague, oui. La semaine de 4 jours sur le papier, ça paraît très bien. Vous y êtes favorable ?
Non, alors moi je suis favorable à la liberté de négociation des entreprises.
Oui.
Je suis un partisan du dialogue social. Je trouve très bien que chez LDLC, il y ait un patron qui se mette d'accord avec ses salariés pour passer aux 32 heures. Et je pense que c'est ce modèle-là qui doit être suivi.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le salarié est plus productif quand il travaille moins de jours dans la semaine ?
Ça n'a jamais été prouvé par personne.
Ah, c'est faux.
Il y a des tas d'études qui montre tout et son contraire.
Alors
sur
moi,
le
j'ai
sujet.
Vu l'exemple de Microsoft, qui l'a donc expérimenté en août 2019 avec les 2300 salariés de son département nippon. Résultat, la productivité, tenez-vous bien, a augmenté de 40%.
Non, mais bien, attendez, il y a des cas d'entreprises. Après,
il
faut regarder dans le détail. Il y a quand même
des chiffres.
Où ça existe, il y a des tas d'entreprises où la diminution du temps de travail ou le bonheur nuit à la productivité. Donc il faut arrêter.
Le bonheur nuit à la productivité ?
Ah, ça peut arriver, bien sûr. Et donc il faut arrêter d'expliquer qu'il y a un modèle d'entreprise qui doit être appliqué à tout le monde de façon aveugle et rigide.
Sophie Binet.
Moi, je note sans surprise que M. Vérague est d'accord avec son organisation, c'est-à-dire le MEDEF. Pour ce qui est de la réduction
vous complimentez le MEDEF en pensant que j'en suis
allez-y,
membre.
Pour ce qui est de la réduction du temps de travail, les chiffres montrent que la productivité horaire est d'autant plus importante que le temps de travail est faible. Et surtout, je pense qu'il faut arrêter de penser en ayant en tête le simple coût du travail.
Oui.
Dans ces cas-là, alignons-nous sur le Bangladesh.
Mais
et la France sera la plus compétitive du monde.
Le débat, ce n'est pas juste réduire le temps de travail, c'est travailler 4 jours dans la semaine. Donc on peut aussi se dire qu'on va travailler 40 heures dans la semaine et qu'on va faire rentrer tout ça en 4 jours. C'est le débat en Nouvelle-Zélande, c'est le débat en Grande-Bretagne. C'est pas forcément travailler moins, c'est travailler moins de jours.
Pour nous, le débat, c'est travailler moins et après avoir la liberté de et payer autant évidemment et après avoir la liberté de l'organiser de la façon qui arrange le mieux les entreprises et les salariés, parce que c'est bien évidemment pas la même chose quand on est une usine qui est obligée de tourner 7 jours
oui.
sur 7 de quand on travaille dans le tertiaire pour les cadres où on peut tout à fait organiser la semaine en 4 jours et limiter les temps de transport.
Alors Bernard Vivier, question simple, est-ce que, parce que c'est l'essence hein, de cette philosophie de la semaine de 4 jours, travailler moins permet de mieux partager le travail, est-ce que ça peut être un remède au chômage de masse ?
Non, pas fondamentalement. Ce n'est pas parce qu'on va partager le travail qu'on va dégager à due proportion des emplois nouveaux. On a toujours et depuis longtemps eu cette idée que si chacun travaille un peu moins, on va dégager un nombre d'heures de travail qui vont permettre des embauches. C'est beaucoup plus compliqué et on le voit, la réforme sur la réduction du temps de travail, loi de Robien en 1996, puis ensuite Jospin, 1998, 2000, 2000, voilà, les 35 heures, ont permis de maintenir, de créer un peu d'emplois, mais pas de faire cette vague heureuse, révolutionnaire qu'on voudrait. Qu'est-ce qui crée de l'emploi, finalement ?
On parle quand même de 300 à 400 000 créations
oui,
d'emplois, selon
maintenu, créé ou maintenu.
Mais ça, c'est vrai maintenu. Que ça n'a pas résorbé le chômage
non,
de...
Non, ça n'a pas résorbé le chômage.
Le plein emploi.
Maintenant, le temps de travail doit diminuer. Il diminue, si je peux me permettre.
Oui.
Napoléon Ier, on travaillait, c'est une estimation, on travaillait à peu près la moitié du temps de la vie éveillée. On vivait peu longtemps... On travaillait à la ferme pour l'essentiel et on travaillait la moitié de son temps de la vie éveillée. Sous Macron Ier, si je peux m'exprimer ainsi, nous travaillons à peu près 10 à 12% du temps de la vie éveillée.
Oui.
Et c'est un progrès,
donc,
ce qui veut dire que...
Moins.
Mais bien sûr, si on a mis la semaine de 40 heures dans la loi en 1936, on ne l'a réalisée dans les faits qu'en 1982. Aujourd'hui, l'horaire légal de travail, c'est 35 heures. L'horaire réel effectif des salariés à temps plein, c'est 39 heures.
Oui.
Donc, la productivité va permettre de dégager des moyens qui nous permettront de travailler moins, tout en ayant davantage de revenus.
Alors, je voudrais poser la question à Laurent de la Clergerie, président de LDLC, cette société de vente en ligne d'équipements informatiques, qui a donc décidé d'instaurer cette semaine de 4 jours. D'abord, quelle réaction à ce que vous avez entendu en plateau ? Et est-ce que vous avez prévu justement d'embaucher et de créer des emplois ?
Alors, on a prévu, alors, j'ai fait le calcul en gros, on perd 3 heures de travail, ce qui représente à peu près 10%, et on va embaucher 4%. Donc effectivement, ça ne remplace pas l'intégralité des heures. Alors moi, je différencierais les mots productivité et efficacité dû à ce que je considère qu'il va y avoir plus d'efficacité des salariés qui auront eu un jour de repos. Et les 4 jours, c'est pour moi très important parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'un jour de repos et oui. pas de 32 heures. Parce que sans ce genre de repos, je pense que je n'aurais pas la même efficacité derrière.
Bien. Sophie Binet, sur la productivité d'un salarié qui travaille un peu moins. Est-ce que ça, pour revenir sur ma question première, c'est avéré ? Je parlais de l'exemple de Microsoft tout à l'heure. En Allemagne, par exemple, en 1994, parce que ça fait aussi débat en Allemagne, cette histoire de la semaine de 4 jours, ça a été proposé par le grand syndicat de la métallurgie, le premier syndicat d'Europe, IG Metall. Et il y a certains ministres du gouvernement d'Union nationale d'Angela Merkel qui ont dit, eh bien, pourquoi pas, banco, si vous voulez tester, on peut. Eh bien, en Allemagne, en 1994, pour sauver 30 000 postes, Volkswagen avait fait passer 50 000 employés de 36 heures à 28 heures en baissant leur salaire, par contre, de 10%. Et ça a marché. Ils ont sauvé l'entreprise, ils ont sauvé les emplois, Sophie Binet.
Oui, moi je confirme. Il y a un exemple aussi très récent en Allemagne sur la précédente crise où patronat et syndicats se sont mis d'accord sur la semaine des 28 heures, ce qui a permis de passer la crise. Moi, ce que je note comme point positif, c'est qu'a priori, on est tous d'accord sur le fait que les 35 heures ont permis de créer 400 000 emplois. Vous crachez dans la soupe en disant « non mais 400 000 emplois, c'est presque rien ». Juste un ordre de grandeur. Là, on a un plan de relance à 100 milliards d'euros, oui, 100 milliards oui. d'euros, et on nous dit qu'on va créer derrière 160 000 emplois. Donc, on voit que d'un côté, avec 100 milliards d'euros, ce qui est une somme colossale, on n'a jamais eu un plan de relance de cette ampleur, on crée 3 fois moins d'emplois qu'avec les 35 heures. Donc, le fait que la réduction du temps de travail crée des emplois, c'est indéniable. Et de l'autre côté, ce qu'on sait aussi, c'est que l'augmentation du temps de travail supprime des emplois, puisque nous avons le bilan de la déréglementation des heures supplémentaires engagées sous Nicolas Sarkozy, oui. qui a supprimé entre 50 et 100 000 emplois. Alors, donc ça, on le sait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que d'un côté, il y a des salariés qui travaillent trop, qui travaillent en moyenne 39h30 par semaine. Pour les cadres, c'est 44h30 par semaine. Oui. Et de l'autre côté, des salariés qui ne travaillent pas assez.
D'ailleurs, le temps de travail maintenant est revenu au niveau de l'Allemagne. On a longtemps dit que les Français travaillaient moins que les autres. Ça n'est plus tout à
c'est
fait
faux.
Vrai, Bernard Vivier. Je parle sous votre
oui,
contrôle.
C'est exact.
Bien. Éric Verhaeghe, vous êtes entrepreneur. Vous êtes ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres. Mmh. Est-ce qu'il n'y aurait pas sens, pour renforcer la productivité de la machine française et de la compétitivité française, à faire travailler les cadres, par exemple, simplement 4 jours par semaine? Je vous pose la question parce que je me suis amusé à regarder une étude sur ces salariés qui procrastinent au travail. Mmh. Savez-vous combien d'heures sont perdues chaque semaine au travail à ne rien faire?
À mon avis, au moins une dizaine. Ça doit être dans ces eaux-là.
Entre 5 et 10 heures par salarié.
Oui, je ne suis pas étonné, oui, bien sûr.
Donc, si on ramasse le temps de travail de la semaine sur 4 jours, est-ce que vous ne pensez pas qu'on gagnerait en productivité?
Non, mais l'illusion, c'est de croire que de l'extérieur, on va pouvoir expliquer comment une entreprise est efficace. Une entreprise, c'est dirigée par un patron, par des cadres, qui ont leurs problèmes d'organisation, leur choix d'organisation, qui ne sera jamais unique ni uniforme. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir si, dans une situation de crise, on veut renforcer la difficulté du métier de patron en imposant de nouvelles règles, ou si on dit aux gens organiser. Car ce qu'on oublie de dire, par exemple, sur
donc
les 35
heures... Donc vous dites laisser la place à la négo d'entreprise.
Oui, bien sûr, comme en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ce qu'on oublie de dire, ce qui m'amuse, c'est les oublis systématiques. En Allemagne, l'État ne se mêle jamais de la négociation sociale, c'est un principe
c'est
constitutionnel.
Il a fixé un salaire minimum.
En France, on a une revendication pour dire c'est l'État qui doit. Voilà, il a fixé récemment un salaire minimum.
Ah oui.
Deuxième point, ce qu'on oublie de dire sur les 35 heures, 400 000 emplois ou pas, c'est pas le sujet, c'est que ce sont des emplois encore aujourd'hui subventionnés massivement. C'est-à-dire que le manque à gagner en réduction de charges pour rendre la mesure supportable économiquement,
ça a coûté beaucoup moins cher que le plan de relance.
Elle représente environ 50 000 euros par emploi créé.
Oui. Bah là,
et c'est
là, on
ce
est
qui
à 160 000 euros.
A appauvri bien. La sécurité sociale, qui est déficitaire aujourd'hui à cause des 35 heures.
Éric Verhaeghe, on continue d'en parler dans quelques secondes avec nos invités, les bienfaits de la semaine de 4 heures. Ou au contraire, ce que ça pourrait engendrer pour l'économie française. On en parle aussi avec Bernard Vivier, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit avec le grand débat du Club des Idées à 19h41 en direct dans le studio d'Europe Soir. On parle ce soir du temps de travail des Français. Faudra-t-il demain travailler plus ou au contraire travailler moins? Et on évoque cette question qui fait débat partout en Europe de la semaine de 4 jours. Et si c'était la solution? On en parle avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, avec Éric Verhaeghe, entrepreneur et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres, avec Sophie Binet également, secrétaire générale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Julien, et puis Laurent de la Clergerie qui est avec nous par téléphone, président de LDLC. C'est une société de vente en ligne d'équipements informatiques qui a décidé, on le rappelle, d'instaurer cette semaine de 4 jours. On va d'ailleurs vous remercier. Merci pour vos commentaires et vos explications. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre date avec nous dans un an et pour nous dresser le bilan de cette expérimentation de la semaine de 4 jours ?
Ce sera avec plaisir.
Ce sera avec plaisir. Merci infiniment, monsieur, et bon courage à vous, votre activité et à vos salariés. Alors, on parlait de la productivité française, Bernard Vivier. Moi, j'ai ressorti des chiffres. Je suis épaté de voir que les travailleurs français sont les plus productifs d'Europe, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, devant l'Italie, devant les Pays-Bas. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend dans le débat public.
Oui, ils ne sont pas forcément les travailleurs français les plus productifs, mais ils sont dans une bonne moyenne, parmi les plus productifs. Le débat que vous avez est un débat très intéressant parce qu'il se trouve au carrefour entre le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, et l'illustration de cette entreprise lyonnaise en est un bel exemple, et puis tout ce qui est performance. On ne peut donner du bien-être, des richesses, que quand on a produit la richesse, c'est-à-dire quand la productivité est suffisante. Cette productivité, qu'est-ce que c'est ? C'est la création de richesses rapportée au dénominateur avec le nombre d'heures travaillées. Notre histoire économique fait que, naturellement, la productivité dégage des marges de richesse que l'on peut répartir, notamment, tout particulièrement, par la réduction du temps de travail. Et cette productivité, elle est due à quoi ? À des efforts de formation, de compétences, de gains de temps, ce sur quoi ce chef d'entreprise lyonnais est en train de miser aussi, de bien-être au travail, d'organisation du travail. En 1998-2000, la réduction du temps de travail a eu une contrepartie, on a cassé la rigidité et on a donné ce qu'on appelait la flexibilité, avec ses avantages et tous les risques liés à la flexibilité du travail. Mais les horaires, c'est l'annualisation.
Olivier, voilà. C'est le cas des Néerlandais, ils ont une flexibilité très forte et ils peuvent, dans certains cas, travailler 4 jours, 40 heures en 4 jours, mais avoir une semaine complète qui se termine le jeudi soir. Oui. Et ça fonctionne.
Oui, parce qu'à la différence du chef d'entreprise lyonnais, la semaine de 40 heures, par exemple, ça peut être 4 jours que multiplie 10 heures. On fait les 40 heures en 4 jours. Hein. C'est pas notre modèle. Les Allemands valorisent beaucoup les contrats à temps partiel, des Kurzarbeit, comme on dit en Allemagne. Donc c'est un autre modèle. Et puis, le troisième facteur de l'amélioration de la productivité, qui est essentielle, c'est le progrès technique. C'est la machine qui remplace l'homme. Là aussi, avec des grands avantages, ce sont les tâches pénibles qui disparaissent les premières, mais aussi le risque de chômage.
Et puis, c'est un modèle de société différent aussi. Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens.
De la CGT.
La semaine de 4 jours pourrait avoir des bénéfices sanitaires en réduisant, par exemple, le nombre d'employés présents. Alors, on pense évidemment à ce qui se passe en ce moment avec les contagions liées au Covid. On dit aussi que ça pourrait favoriser, mais j'ai lu ça dans une étude, une redistribution des richesses en encourageant l'exode des urbains qui pourraient aller irriguer les campagnes. C'est un peu le ruissellement géographique.
Oui, tout à fait. Et puis, ça a surtout, de notre point de vue, un grand avantage du point de vue de l'inégalité femmes-hommes. Parce que ce avec quoi il faut rompre, c'est avec le présentéisme qui est aujourd'hui imposé aux cadres. Les cadres, c'est 44h30 de travail en moyenne par semaine. Pour celles et ceux qui sont en forfait jour, c'est encore pire, c'est 46h30. Moi, la question toute simple que je pose, c'est comment peut-on travailler 44h30 par semaine et avoir du temps pour sa famille et pour élever des enfants ? La réponse est, on n'a pas de temps. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on impose aux femmes qui veulent avoir une carrière en entreprise, c'est de se conduire et de se comporter comme un homme cadre comme les autres et d'oublier qu'elles peuvent avoir des enfants et d'enterrer leur volonté de pouvoir être mère également. Et qu'aujourd'hui, entre être mère ou faire carrière, on est obligé de choisir. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être mère et père tout en faisant carrière et tout en ayant des responsabilités élevées. Cela signifie qu'il faut réduire le temps de travail, notamment des cadres, qui est beaucoup trop élevé en France, et rompre avec le présentéisme.
Éric Vérague, vous entendez le discours qui est celui de dire « vive la qualité de vie, vive le projet sociétal ». Peut-être à défaut de trop de travail dans l'entreprise et trop de croissance ou plus de croissance.
Pour un projet de société ouvert, la question c'est est-ce que c'est aux entreprises de le payer ? Et je crois qu'on mélange deux choses. C'est-à-dire qu'on dise que les gens travaillent moins en étant payés moins, ça ne pose de problème à personne. Oui. La question, c'est est-ce qu'on doit demander aux entreprises de financer un projet de société, sachant, et là encore, on ne dit pas tout, si vous regardez comment s'est passée la mise en place des 35 heures à l'hôpital, vous vous apercevez qu'il y a eu des gains de productivité, mais au prix d'une montée colossale de la souffrance des salariés au travail. Je pense aux petites gens, la CGT les oublie. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux agents
hospitaliers. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de la part du MEDEF ?
Je pense qu'en effet, vous avez oublié les classes populaires. Les classes populaires prennent de plein fouet les augmentations de productivité imposées par la diminution du temps de travail. Et je crois que les classes populaires ont besoin d'être défendues dans ce pays.
Vous avez 30 secondes pour répondre, Sophie Binet.
Non, mais c'est scandaleux. Le bilan des 35 heures a d'abord bénéficié aux femmes qui étaient à temps partiel, qui ont ainsi pu atteindre le temps plein. Effectivement, les 35 heures, ce n'étaient pas les 35 heures de la CGT et elles se sont traduites par une modération salariale que nous avons combattue. Et donc, nous nous battons pour une réduction du temps de travail sans réduction de salaire.
Les classes populaires ont payé cher les 35 heures.
Mais parce que ce n'est pas nous qui les avons mis en place, les 35 heures, et que nous pensons qu'il faut réduire le temps de travail sans réduire les salaires et que ça doit être financé en redistribuant l'argent qui est aujourd'hui capté par le capital et par la distribution d'argent aux actionnaires et aux plus hauts revenus et notamment aux salaires des PDG. C'est de ça dont il faut parler.
Alors, le mot de la fin sera pour vous, Bernard Vivier. Attention à votre réponse, parce que ce n'est pas facile de conclure une émission comme celle-là. La semaine de 4 jours, utopie ou projet d'avenir ?
Non, c'est plutôt un projet d'avenir, parce que si on installe ce débat actuel, qui est un peu connecté avec le débat sur le télétravail, qui est une autre façon de travailler, de dégager du temps, de repenser les temps au travail, sur le lieu de travail, hors du lieu de travail. Quand sommes-nous ensemble dans une entreprise qui est une communauté humaine ? Quand pouvons-nous dégager du temps pour s'en extraire ? Voilà. Tout cela, c'est important. Ce qui veut dire que le temps de travail, le volume horaire, est un élément important. Et globalement, nous allons vers une réduction du temps de travail sur une ou deux générations. Et puis, nous avons besoin d'organiser toujours des entreprises performantes. Et
merci,
ça, c'est important.
Merci pour cette conclusion, Bernard Vivier. Merci à tous les trois pour ce grand débat du Club des idées. Le temps de travail, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et tiens, restez avec nous, parce que juste après la pause, on s'intéressera dans Le Jour Où, notre séquence où on remonte le temps et on utilise les archives du Club des idées. On vous racontera l'histoire secrète des 35 heures. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le Club des idées d'Europe Soir qui se poursuit, 19h52, on est en direct avec maintenant un coup de rétroviseur qui fait écho évidemment à notre débat du Club des idées sur le temps de travail. Chaque soir, on prend du recul, on plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir Julien.
Alors, avant l'arrivée hypothétique de la semaine de 4 jours dont on parlait avec mes invités, il y a eu les 35 heures, on l'évoquait, c'était sous Jospin en 97.
Oui, et je vais vous parler d'un souvenir personnel, l'un des moments qui, avec le recul, ont marqué ma vie de journaliste. Nous sommes le 10 octobre 1997, conférence sociale à Matignon, Jospin, Aubry et Strauss-Kahn reçoivent les partenaires sociaux pour leur présenter la copie du gouvernement sur cette promesse emblématique de la campagne des législatives. Le président du CNPF, Jean Gandoua, est confiant, il connaît bien Martine Aubry et il est persuadé que le gouvernement n'ira pas en force sur la question des 35 heures. Et patatras, vers le milieu de l'après-midi, les 100 journalistes présents dans la cour, dont votre serviteur, voient débouler sur le perron Jean Gandoua, rouge de fureur.
L'idéologie a triomphé de la raison, malgré tous les avertissements que nous avons donnés. La décision de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures a été prise par le Premier ministre. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Nous allons nous battre jusqu'au bout contre une mesure qui est très mauvaise pour l'emploi, très mauvaise pour l'Europe et pour l'euro, et qui était bien entendu très mauvaise pour le dialogue social.
Alors dans la foulée, Jean Gandoua démissionne de la présidence du CNPF, laissant la place à Ernest-Antoine Sellière.
Le CNPF, faut peut-être le préciser, c'est le MEDEF.
Voilà,
c'est
justement. MEDEF. Et Ernest-Antoine Sellière, l'année suivante, va changer le CNPF en MEDEF avec un lobbying acharné contre les 35 heures et il utilisera un slogan « Tout le monde ne chausse pas du 35
». Alors le patronat est vent debout et en face les syndicats qui accueillent favorablement cette réforme.
Oui, un syndicat en tout cas, la CFDT, dont la réduction du temps de travail est une revendication très ancienne, revendication satisfaite en partie par une première loi votée en 96, la loi d'Eurobiens sous Jacques Chirac, qui encourage la signature d'accords dans les entreprises. Nicole Notat, la secrétaire générale de la CFDT, s'appuie sur les résultats de cette loi pour pousser les 35 heures.
Depuis toujours, le patronat se dit opposé résolument à la réduction de la durée du travail. Mais sur le terrain, nous venons de vous le démontrer, 1500 accords, ce qui veut dire 1500 entreprises, sont entrés dans la dynamique de la négociation, dans la dynamique qui fait de la réduction de la durée du travail le moyen d'un compromis positif entre les besoins de l'entreprise et les besoins d'ouvrir les entreprises aux chômeurs. L'efficacité du côté de ceux qui font la démonstration que ça marche.
Alors la première loi sur les 35 heures va très vite voir le jour, une loi incitative dans la veine de la loi d'Eurobiens. Le 19 mai 1998, elle est adoptée à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle, Martine Aubry a le sentiment d'avoir écrit une page d'histoire.
Ce 19 mai marque une nouvelle conquête pour les salariés et pour la société tout entière. Alors, je vous en prie, maintenant que cette loi est votée, sortons de notre frilosité, sortons de ce scepticisme qui rend la France ne pas être à la hauteur de ce qu'elle a été dans son histoire. C'est vrai, ce mois de mai est un bien joli mois de mai.
Ça, c'est donc le vote de la première loi qui pousse les entreprises à négocier. Une deuxième loi Aubry sera votée l'année suivante, le 14 décembre 1999. Et là, c'est l'instauration des 35 heures comme nouvelle durée légale s'appliquant à toutes les entreprises.
Le gouvernement Jospin proclame que l'instauration des 35 heures va donc permettre de créer des centaines de milliers d'emplois avec le recul. Est-ce que c'est ce qui s'est passé, Olivier ?
Éternel débat. Déjà, en 1999, écoutez, on avait droit à une bataille de chiffres pour Ernest-Antoine Sellière. C'est un flop.
Pour l'instant, cette loi a créé 15 000 emplois, c'est-à-dire moins de 1 pour 1000 des salariés du secteur privé. C'est une réalité extrêmement décevante, dont nous ne sommes pas du tout heureux, mais dont nous ne sommes pas surpris. Nous l'avions dit, les 35 heures ne créent pas d'emplois.
À l'Assemblée, Martine Aubry fait une analyse radicalement différente.
La réduction du temps de travail crée des emplois. Beaucoup, beaucoup d'emplois. Avant, on le disait, enfin nous le disions. Maintenant, on le sait, mesdames et messieurs les députés, les engagements de création et de maintien des emplois atteignent aujourd'hui 125 000.
Alors, qui dit vrai, Olivier ?
Mais il y a bien une étude quelques années plus tard de la DARES, la direction des études statistiques du ministère du Travail, évaluant à 350 000 le nombre d'emplois créés par les lois Aubry, vous en parliez tout à l'heure, mais beaucoup d'économistes contestent cette évaluation et affirment qu'au contraire, les lois Aubry ont empêché la création d'emplois en dégradant la compétitivité des entreprises.
Merci Olivier Samin pour cet éclairage avec les archives d'Europe 1. On marque une pause. Dans un instant, on retrouve de la musique, du spectacle et on va se détendre avec Émilie Mazoyer qui reçoit un invité exceptionnel, le chanteur Sinclair. Très belle soirée. À demain, 18h. Ciao.